donc un visage très très contemporain. Comment cet espace de liberté en tant qu'animateur vous vous êtes octroyé et comment la sonorité du mot liberté résonne en vous?
Bon, ça s'est fait petit à petit, parce qu'au début c'était une émission de débat contradictoire qu'on encadrait, en fait, ça avait été fait avec Thierry Delavaux, qu'on encadrait par du montage, donc déjà de nature un peu expérimentale. Puis ensuite il y avait une période de creux et c'est reparti par le biais de Jean-Louis Coste, hein, qui m'avait mis en contact avec différents musiciens. Et on avait démarré sur une alternance qui existe toujours sous d'autres formes, d'équipe, donc tout autour de la musique expérimentale. Tout ce qui touche à l'expérimentation sonore, en fait. Il y a de la musique électroacoustique, mais ça peut être plein de choses. Donc maintenant, bah, on va passer aussi bien de la musique bruitiste, du rock progressif, de la musique improvisée. L'idée étant pour moi que écouter des musiques qui sortent, disons, des sentiers battus de l'écoute, de la musique binaire, de la musique rythmique, ça fait sens politique aussi. C'est-à-dire que faire ouvrir les oreilles vers d'autres types d'écoute, c'est aussi aider un peu à penser différemment, quoi.
Donc apporter d'autres clés de découverte.
Oui, de découverte un peu de soi, de son rapport au monde, ouais. Moi, je sais quand j'entends des gens qui disent qu'effectivement, grâce à ce type d'émission, ils ont pu prendre goût à ce genre de musique. Ça m'intéresse comme résultat.
Tu disais tout à l'heure que pour toi, le mot liberté, c'était le thème de liberté, c'était un truc un peu éculé, quoi, un peu facile, parce que ça te semblait dur d'utiliser ce mot-là, enfin d'en parler même, non?
C'est un peu flou, c'est comme les termes, je sais pas, démocratie, il y a des mots comme ça qui sont devenus très vagues, dont tout le monde se réclame. Liberté tout seul, je sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Tout le monde se réclame de la liberté, même les dictatures. Alors liberté de quoi, dans quel sens, je crois que c'est un truc qu'il faudrait creuser, quoi.
Justement, la liberté d'expression, on parlait liberté de la presse, ou liberté d'expression, ou liberté de faire, c'est la liberté que tu t'es octroyée sur le 89.4, c'est la liberté d'exprimer des sonorités complètement pas habituelles, on peut dire. Est-ce que celle-là, tu l'as eue entièrement, ou est-ce que tu t'es mis des limites à cette liberté-là? Je pense à Coste particulièrement, parce qu'on connaît ses déviances, ou entre guillemets, ses excès.
Oh ben, on n'a aucune limite stylistique, disons que la part des différents copains qui gèrent la radio année après année, enfin ça change. Il y a un point commun dans les réactions, c'est les copains qui gèrent la radio écoutent 5 minutes de l'émission, ça les emmerde en général assez vite, mais on a parfaitement le droit de faire ça, donc du moment que pour nous ça se passe bien, c'est bon, quoi. Donc effectivement, dans les milieux musicaux concernés, l'émission a bonne réputation, dans la mesure où on a une totale liberté, aussi bien en temps qu'en contenu. En plus, on n'a personne après nous, donc je m'étais emparé de la nuit il y a déjà des années, ce qui fait que d'une part, on finit un peu quand on veut, d'autre part, la nuit se continue avec des bandes de nuit qui sont sur la même thématique et sur la même musique, et qui durent jusqu'au matin, quoi, jusque des fois même l'après-midi quand les émissions du matin ne sont pas là.
Je reviens sur Coste, tu as toujours été d'accord avec ce qu'il faisait ou pas?
Non, pas entièrement, non. Je trouve... Le jeu de la provocation, il y a quand même, c'est d'un intérêt qui peut être assez... moi, j'ai l'impression que Coste a sciemment désappris, en fait. Parce que je l'ai vu à ses débuts, j'ai ses premières cassettes. Il avait une curiosité, une expérimentation qui allait dans beaucoup de directions. Il allait vers des parodies, des choses comme ça, qui refait moins maintenant. Sur le domaine, par exemple, de la performance ou... Il y a des choses qui ont été faites dès les années 70. Alors, est-ce que c'était vraiment si nouveau? Ça, je pourrais pas dire, mais je suis un peu perplexe, quoi. Bon, par contre, effectivement, quand je vois ce qui lui tombe sur le coin de la gueule, là, je suis solidaire à ce niveau-là, totalement. Parce que, quel que soit mon petit agacement devant l'utilisation systématique un peu des côtés pipi-caca, que je trouve un petit peu enfantin parfois... quand ces provocations lui attirent le nombre d'emmerdes qu'il a eu, le fait qu'il y a une jurisprudence Coste, enfin, qui est fait qu'il n'y a pas de... que sur la presse, ce qui existe en presse, c'est-à-dire le fait qu'au bout de, je ne sais plus, 3 ou 6 mois, on ne peut plus poursuivre une publication, Il y a publication permanente sous le web. Et ça, c'est effectivement basé sur, sur le procès Coste. Donc, ce qui lui est tombé dessus, il a servi de bouc émissaire pour des enjeux infiniment plus puissants.
Alors, je reviens à la liberté encore. Tout à l'heure, on disait aussi justement cette liberté en face des médias, c'est-à-dire la liberté de diffuser tout et n'importe quoi, ou tout simplement de faire de la soupe TV comme on la vit aujourd'hui. T'en penses quoi, toi ? Enfin, je pense, hein, on est bien d'accord, on pense tous au sujet auquel je ne veux pas parler, c'est-à-dire Love Story, là, ou je ne sais pas trop quoi. T'en penses quoi, toi ?
Ah, pour moi, ça s'inscrit un peu dans l'évolution d'ensemble du système où on est maintenant dans le meilleur des mondes, enfin le meilleur des mondes d'Huxley, qui est une anti-utopie qui s'opposait, en fait, s'opposait pas, qui correspondait à une autre démarche, disons que 84, c'était la répression visible et la peur comme moyen de contrôle. Là, c'est la répression se fait invisible, c'est-à-dire que les gens peuvent plus se révolter parce qu'ils perdent toute conscience d'être roulés dans la farine. Et là, c'est tout à fait ça. On a, je sais pas, 20 000 personnes qui sont volontaires pour se faire mettre dans un zoo télévisé. Donc, c'est même pas le problème. Il est même plus au niveau de TF1. C'est comment peut-on avoir 20 000 personnes qui sont volontaires pour un truc pareil ? Parce qu'effectivement, il y a une évidence qui rôde, qui est particulièrement perverse.
C'est soft brother.
C'est soft brother. On a les dictatures qu'on mérite, c'est ça un peu. Ouais. Donc, on a la liberté qu'on mérite, tu crois ?
Qui mérite qui ? Ça, je saurais pas trancher, mais. Je pense qu'en tout cas,
ça. On ne mérite pas ça.
Il bat autour d'une table. Non. René Libertin, tu t'es toujours senti entièrement libre. Tu n'as jamais eu cette espèce de sentiment de qu'on peut avoir quand on est finalement animateur ou journaliste d'autocensure, parce que c'est un sujet qui tient énormément à cœur à tous les journalistes de la presse écrite ou de la presse radiophonique en général, où il y a une part comme ça où on dit ah, on est quand même sur le média de la Fédération anarchiste. Donc est-ce que il y a des choses que tu te dis finalement je les aurais pas faites? Est-ce que ta liberté a une limite ?
Non, parce qu'en fait, déjà, je ne fais pas une émission militante au sens direct du terme. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'effectivement, défendre ce type d'écoute de musique fait sens politiquement. Mais en même temps, on ne fait pas d'émission tract. Donc déjà, on a peu de chances d'avoir de conflits de type politique. Et l'attitude des copains, c'est plutôt de tourner le bouton de leur propre radio quand ça les énerve d'entendre des grincements, des bruits bizarres et des choses où il n'y a pas l'ombre d'un rythme identifiable.
Oui, mais c'est un rôle de programmateur quand même. C'est-à-dire que si on t'envoie une cassette résolument nazie, tu fais quoi ?
Je ne la passe pas. Oui, ça effectivement, s'il y a un sens déclaré. C'est arrivé qu'il y ait des choses qui passent, que je désapprouve, mais je le suis des fois qu'après. Bon, il y a aussi le fait que ce n'est pas une émission que je fais tout seul. Il y a 4 équipes, on est bien une dizaine de personnes. Les copains n'ont pas forcément les mêmes exigences. Il y a eu des fois des trucs comme Wet House, des gens comme ça, qui ont la réputation d'être liés au Ku Klux Klan qui sont passés sur Epsilonia. Bon, quand je le savais, je ne les empêchais pas de le programmer, mais on faisait un petit chapeau, quoi. Signaler, bon là, voilà, vous savez ce que c'est quand même. Maintenant, moi, personnellement, je n'en amènerai pas.
Oui, parce qu'on a vécu d'autres radios du type Ici et Maintenant, qui, au nom de la liberté d'expression, laissaient parler n'importe qui, n'importe comment, enfin, notamment les nazis.
Les anars. Oui, un anar, il ne laisse pas parler, il ne fait pas de censure, mais il ne laisse pas parler quelqu'un qui attente à la dignité d'un individu. Hein, le principe de la justice, c'est ça. C'est le respect de la dignité d'un individu à quelques risques que puisse vous exposer sa défense. Donc,
c'est la limite de la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'en gros...
C'est pas une limite, mais c'est...
C'en est une.
Enfin, si on veut, c'est, si tu appelles ça une limite, mais c'est simplement une morale.
Oui, c'est une limite morale. C'est une limite morale, c'est-à-dire qu'en fait...
C'est-à-dire on est des hommes, quoi, on est des humains, et donc à partir de là, effectivement, on n'accepte pas, et c'est en ça d'ailleurs que l'émission dont tu ne veux pas parler, là, de M6, est une atteinte à la dignité des individus, et elle est anti-anarchiste dans ce sens-là.
Non, mais elle nous a motivés à nous poser la question. C'est déjà au moins le mérite. C'est le seul mérite qu'elle ait. Donc, ça prouve qu'elle a des raisons d'exister. Puisque finalement, elle nous met en face d'une exaspération de la société. Donc, en ça.
C'est vrai qu'à la limite, on peut dire que c'est une illustration magnifique de la société dans laquelle on est, mais en même temps tragique.
Il y a une fois où on a traité un sujet, enfin une fois on en a traité d'autres, mais une qui me revient à l'esprit comme particulièrement frappante, d'un exemple là où il y avait vraiment une interaction directe entre musique et politique, c'était autour de Jean-Marc Vivenza. Jean-Marc Vivenza, c'est un musicien qui se réclame de Brutis, de Marinetti, de Russolo, mais qui se réclame aussi du fascisme italien, mais de manière claire et ouverte. Son travail, donc moi je l'avais interviewé après un concert, bon, mais tel l'innocent, je pose quelques questions ouvertes, je laisse palabrer, j'enregistre tout, et ensuite je fais venir Gaetano Manfredonia, qui est un historien qui a passé 2 thèses d'histoire, une habilitation, enfin bon, quelqu'un d'assez costaud, italien comme lui, ce qui n'était pas négligeable sur le fascisme, qui reprend donc tout ce qu'il déclare et qui le démonte pièce à pièce. Effectivement, il ne dit jamais des choses totalement fausses. Simplement, les choses sont toujours biaisées. C'est-à-dire qu'il décrit le fascisme comme une pensée injustement décriée, sympathique. Et Gaetano reprenait effectivement chaque élément point à point. Et retrouvait en plus des traces qui n'étaient pas évidentes à décoder. Je ne sais pas que par exemple, l'OBRA, l'œuvre Brutis, qui était l'association autour de lui, c'était le sigle de la police politique mussolinienne.
Tu considères que ça c'est un exemple de l'expression d'une liberté, c'est-à-dire de laisser les gens s'exprimer, mais en même temps de ne pas les laisser dire n'importe quoi. C'est-à-dire en fait de laisser la possibilité aux gens, enfin quand on est journaliste, entre guillemets, de se faire leur propre opinion, c'est thèse, antithèse, quoi.
Ça c'était l'expression de notre engagement à nous, en fait. La liberté, là, c'était la nôtre. Puis on était quand même un peu chez nous, donc on l'assumait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un truc réellement équitable, parce que faire venir dans les studios Vivenza tout seul, c'était pas vraiment une chose qui aurait posé problème, on était capable de le gérer. Maintenant, la bande de fascistes au sens propre du terme, là, qui sont autour de lui, on n'avait pas envie de se les coltiner à la radio, ça aurait été extrêmement dangereux. Donc, d'où le côté peut-être un petit peu injuste de prendre une interview, de la saucissonner et de la traiter pièce à pièce. Mais là, c'était le fait qu'effectivement, les affirmations méritaient d'être démontées, qu'elles étaient toutes biaisées, quoi. Que quand il disait, par exemple, je ne sais pas, je pense à un exemple, les brutistes ont été réprimés par les staliniens, ils ne l'ont pas été par le régime fasciste. Bon, Gaetano précisait, certes, ils avaient le grade de colonel et le voyage gratuit en première classe sur toute l'Italie. Donc, ils n'étaient pas en position d'être réprimés. Mais si on ne précise pas ça... Effectivement, au sens propre du terme, c'est vrai qu'ils n'ont pas été réprimés en Italie, ça c'est sûr. Ils ne risquaient pas de l'être.
En tant qu'amateur de musique, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui passerait, par exemple, sur Radio Libertaire, des musiques religieuses ? On sait qu'il y a eu des polémiques il y a quelques années sur ce... et puis qu'il y a encore des auditeurs qui réagissent assez bizarrement lorsqu'on leur passe un super Tédéum. T'en penses quoi en tant qu'amateur de musique et en tant que...
Nous avons passé des messes sur Epsilonia, on a passé la messe aux oiseaux par exemple, Jacques Lejeune avait invité, ça avait d'ailleurs été une fois où le téléphone dans les émissions musicales sonne pas beaucoup, en tout cas pas les émissions comme la nôtre, et là quand Jacques Lejeune avait précisé que telle pièce d'électro avait été faite dans un studio tenu par des curés, il en a eu 6 coups de fil d'un coup, quoi, en l'espace de quelques minutes. Non mais sinon il y a aussi une... J'ai pas envie de laisser certaines formes d'art au curé. Il y a des musiques qui m'intéressent pour des raisons purement musicales. Le contenu religieux, j'en ai rien à foutre. Bon, il doit être clair que l'on sait ce qu'on écoute, qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Maintenant, il y a une beauté qui a été mise dans les choses. Certaines messes ont pas été, d'une part, été écrites par des gens croyants du tout. Certaines ont été faites par des francs-maçons. Et moi, ça ne me pose aucun problème d'en passer. Dans la mesure où, effectivement, c'est pas non plus... des choses qui ont des contenus qui seraient masqués ou qui poseraient problème. Quoi.
Oui, puis ça ne sert pas de drapeau à un prosélytisme religieux. Hein. Il est certain que les églises, par exemple, sont souvent des monuments particulièrement passionnants, enfin intéressants, à la fois sur le plan de l'histoire, et sur le plan de l'architecture, et sur le plan de tout ce que ça représente. Oui. Donc, je crois qu'il y a de ce côté-là une ouverture totale de la part des... de Radio Libertaire.
En plus, je me méfie un peu de l'athéisme dans la mesure où ça a tendance, enfin l'athéisme au sens très militant, où ça a le sens d'être le négatif de la croyance, c'est pas la négation de la croyance. et que moi je serais plutôt sceptique, c'est-à-dire je pense qu'il n'existe pas de vérité d'aucune sorte, il y a des axiomes personnels, et c'est tout ce qu'on peut en dire en fait. Donc on fait des choix, on les assume, on les défend, on se bat pour ça, mais je ne me sens pas spécialement droit de dire à des gens ce qu'ils doivent croire. Par contre je peux leur pointer leurs contradictions, qu'ils ne sont pas censés défendre la guerre, défendre le meurtre, défendre le...
Proudhon disait que l'athéisme, en effet, comme toi, il n'avait pas de raison de brandir un drapeau athée, mais il était par contre antithéiste dans la mesure, en effet, la bataille contre l'esprit du sacré, du religieux, du dogmatique, c'était son affaire.
L'affirmation qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des choix personnels.
Toujours autour de ce débat de liberté. Hein.
Moi, je suis complètement dans le classique. Hein, je veux dire toutes les grandes partitions. Je veux dire de musique classique. Je veux dire quelle est l'institution qui a quand même soutenu la création à travers le mécénat. Bah, c'est beaucoup la religion. Il y a quand même eu, je veux dire, la noblesse. Donc, je veux dire, c'est une aristocratie. Et là, oui, évidemment.
C'est une musique dont s'est emparée toute une bourgeoisie. La musique classique est une musique qui est une sorte de must incontournable dans certains milieux. Et effectivement, il ne faut pas leur laisser. Moi, c'est vrai que ce n'est pas une musique qui m'accroche beaucoup pour d'autres raisons, mais c'est pas, je la respecte. Enfin, elle me paraît tout à fait normale qu'elle soit citée. Quoi. D'ailleurs, j'avais l'intention, si on réussit à avoir un détecteur de blanc à la radio, un appareil qui déclenche un cassette quand il y a des blancs, ce qui arrive, nous arrive souvent, mon idée, c'était de mettre des cassettes de musique classique. Donc, je comptais te le demander. Sachant que pour nous, de l'autre côté, on sait que s'il y a ça, c'est qu'il y a un problème, mais qu'il n'y a pas du blanc à l'antenne.
Et en contrepartie, c'est vrai que j'étais dans une église, je crois que c'était du côté de Vernon, et j'ai rencontré vraiment un homme passionnant qui jouait de l'orgue. Alors il est parti carrément en nous disant comment l'orgue, à travers différentes écoles françaises, allemandes, anglaises, a mis cet instrument en valeur et quelles étaient les partitions qui étaient utilisées. Puis en fait, puis à la fin, il a mis une note, un bémol, en disant c'est dommage parce que cet instrument est uniquement intégré, on ne le trouve que dans les églises, et c'est dommage qu'il soit dans les églises. D'un côté, c'est vrai qu'il y a une acoustique, mais il est prisonnier de cet espace et aussi de cet espace qu'on connaît religieux et qui finalement qu'il aurait d'après lui voulu ouvrir et sortir de cet espace.
Bah, par exemple, il y a des copains, Jean-Luc Guillonnet et Eric Cordier, qui avaient fait un concert d'improvisation, de musique improvisée. C'était Vielaroux et orgue d'église, mais orgue joué free. C'est-à-dire qu'il ne jouait pas du tout suivant les techniques normales de l'orgue. Les claviers, à la limite, il le bloquait avec des poids s'il fallait. Il jouait directement sur les tirettes. Et il avait mis des micros un peu partout dans l'orgue pour capter les bruits que normalement que l'on n'entend pas. Et eux, ils ne sont pas plus croyants que moi. Donc quand ils m'avaient demandé d'annoncer d'autres concerts qui se passaient dans une église, puisque les orgues, il n'y en a pas beaucoup ailleurs, je les avais mis en boîte, mais tout à fait gentiment. Le thème, bah oui, le seul orgue, un des rares endroits où il y a un orgue qui soit pas une église, c'est le grand studio du GRM. Donc la prochaine fois, c'est là où on ira vous voir.
Oui, non, je voulais dire que pour moi, par rapport à l'orgue, l'église est une immense caisse de résonance et donc c'est un magnifique espace, un volume plutôt. Et donc, c'est plus son côté religieux qui est important, c'est la capacité que ce volume a de faire des résonances, faire de l'orgue un instrument riche, complet. C'est vrai que il y a toujours un peu le côté majesté, il y a le côté impressionnant, il y a le côté grandiose. Oui. Alors justement, le côté grandiose, c'est le grandiose de l'homme, c'est pas celui de Dieu.
Ça, par exemple, ça me fait penser à un sens justement qu'on pourrait dire politique ou philosophique de ce qu'on défend en musique. Les musiques improvisées, par exemple, détournent systématiquement, ou en tout cas le travail de recherche porte beaucoup là-dessus, les instruments de leur son pour lesquels ils sont conçus. C'est faire de la percussion sur une contrebasse, c'est utiliser une guitare électrique comme une simple table de résonance pour mettre toutes sortes de sons dessus. Et là, il y a une liberté prise par rapport aux instruments, effectivement, ou faire de l'impro sur un orgue d'église.
Voilà, avec le bruit des assiettes, des couverts et des verres, surtout ceux de l'amitié, vous avez reconnu quelques voix. Cette interview réalisée par votre serviteur, Laurent-Nicolas Dinuoff et Anita Desjardins d'Orphée, en compagnie
de Jacques de Chronique Hebdo et de Jacques Perdereau qui nous parlait largement de cette liberté d'expression défendue au sein des Psylonia, bien sûr, et surtout au sein de son travail à Radio Libertaire sur la voie sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.